Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de Libre Journal de Pascal Lassalle. Alors je tiens tout d'abord à préciser que cette émission est préenregistrée. Donc les auditeurs qui voudront se manifester à bon escient le feront comme d'habitude par les moyens permis par la technique ou par le biais d'une bonne vieille lettre manuscrite. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver en famille. Retrouver en famille pour évoquer un sujet qui m'est cher, étant donné qu'il concerne ce que nous pourrions considérer avec mon auguste invité comme notre alma mater. Effectivement, nous allons parler aujourd'hui du phénomène qui a des conséquences favorables, pour nous en tout cas positives jusqu'à nos jours, que certains ont dénommé « nouvelle droite » à la toute fin des années 70. Donc un phénomène métapolitique, une communauté de travail et de pensée qui a eu, en quelque sorte, qui a opéré, devrais-je dire, un travail considérable pour justement rénover donc les fondamentaux, la pensée d'une certaine droite. Même si le terme aussi, cette classification a pu être discutée, les concernant. Donc cette histoire a souvent été racontée par nos adversaires, réduite donc à des caricatures ou des slogans. Et il manquait cruellement un récit d'ensemble, même s'il y a eu des exégètes assez pertinent, je pense à Pierre-André Taguieff notamment, peut-être quelques autres, mais trop rares. Et il manquait surtout un ouvrage qui soit issu de notre mouvance, mais qui pour autant reste positivement critique et essaye de retracer pratiquement un demi-siècle d'histoire métapolitique de cette pensée européenne dissidente qui a placé au cœur de sa démarche la culture, la longue mémoire, aujourd'hui des termes qui sont popularisés mais qui le sont grâce justement à cette expérience unique, l'identité, l'enracinement, l'écologie, le sacré, la critique et la modernité. Donc cet ouvrage va éclairer un petit peu les thèmes majeurs, va restituer des débats internes, ces métamorphoses et tout ce périple qui a pu constituer une formidable aventure humaine et intellectuel. Donc pour cela, j'ai le plaisir de recevoir François Dambellin. François, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Alors nous allons nous tutoyer tout simplement parce que sans hypocrisie, je peux dire que nous nous connaissons depuis 35 ans et que nous sommes rencontrés dans ce cadre, dans un cadre magnifique d'ailleurs, que fut une auguste bâtisse provençale.
La Domus Europa.
À l'orée des années 90, nous sommes d'ailleurs de la même génération, je suis de 50, on est né, mais voilà, nous cheminons aujourd'hui à nos âges, c'est une petite différence, ne compte pas, et tu as publié au mois d'avril, notamment à l'occasion du colloque de l'Institut Iliade, qui a été un franc succès, nous pourrons en reparler à toute fin d'émission, donc un ouvrage intitulé « La nouvelle droite », sous-titré « Un panorama historique et métapolitique ». Donc une coédition l'Institut Iliade et les éditions de la Nouvelle Librairie.
Absolument.
Et alors écoute, je dois dire, tu sais que je ne suis pas un vif flatteur, mais tu as fait un travail considérable, un travail magnifique. C'est un ouvrage vivant, c'est un ouvrage donc qui illustre vraiment pour quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, comme c'est mon cas, en tout cas une partie de l'histoire, nous deux, on a surtout vécu l'histoire de cette nouvelle droite à partir de, comme je l'ai dit, de l'orée des années 90. Mais c'est un ouvrage vraiment remarquable qui manquait cruellement pour offrir notamment pour les jeunes et les moins jeunes, mais on pense surtout aux plus jeunes, aux jeunes militants aujourd'hui, qui sont marqués, sans toujours le savoir, en être conscient par justement cet héritage qui se perpétue, qui se métamorphose, un terme qui était cher à Guillaume Fay, on pourra en reparler, une des figures de ce courant. Donc je crois qu'il est important que le public, le grand public et surtout le public militant dispose d'une telle synthèse et qui est éclairante, qui est d'une lecture aisée, agréable même, je dirais, puis bon, nourri un petit peu par ton humour à froid et ton esprit, ta griffe que je connais très bien. Tu as accédé à énormément aussi de sources, de documents, à la fois personnels et j'imagine aussi fournis par les amis,
oui,
par nos connaissances. On voit voilà, que c'est remarquablement documenté. Et surtout, on va essayer de voir, bon, dans le temps trop bref, bien sûr, de cette émission, un petit peu quelles sont les grandes périodisations de l'histoire donc, de la Nouvelle Droite, qui se focalise, on va le voir tout de suite, autour du fameux groupement de recherche et études pour la civilisation européenne, mais qui a eu, bien sûr, aussi des déclinaisons diverses, à la fois, bien sûr, dans le domaine métapolitique et dans le domaine politique, jusqu'à nos jours, d'une certaine manière. Ce que tu retraces vraiment très finement, hein, tout au long de ton propos. Alors, par coup, pourrions-nous commencer, mon cher François, par le commencement, j'imagine.
La naissance de la Nouvelle Droite. Bon, on peut dire que la Nouvelle Droite a pris naissance dans les années 60, au sein de la mouvance néo-nationaliste qui s'était regroupée après la fin de la guerre d'Algérie autour de Dominique Venner, de la revue Europe Action et de la Fédération des étudiants nationalistes. Alors, pourquoi mouvance néo-nationaliste ? Parce que c'est une mouvance qui était en rupture avec le vieux nationalisme, je dirais du sabre et du goupillon. C'était un nationalisme qui était tourné vers l'idée européenne, tourné par une certaine vision sociale, un certain attrait pour la modernité et aussi marqué par le réalisme biologique. Voilà. Donc, cette mouvance s'est organisée autour de ces figures et de ces revues, et elle s'est lancée dans le combat politique, et elle a connu un échec assez sévère autour de l'année 67. Donc un échec qui était lié, je dirais, à la fois à des questions financières et d'autre part à un échec politique aux élections législatives de 1967.
Voilà, on avait des figures déjà qui se détachaient en leur sein. On peut parler de Dominique Venner, de Jean Mabir et déjà du jeune Fabrice Laroche et de quelques autres.
Alors, Fabrice Laroche, alias,
Alain Benoît.
qui était déjà une figure, qui était la figure montante intellectuelle de cette mouvance, et qui était notamment, qui avait un réseau déjà à cette époque-là, qui s'était constitué un réseau de contacts à l'international extrêmement important.
Voilà. On peut dire également que cela était lié à la publication d'un texte qui, encore aujourd'hui, est réédité et traduit pour une critique positive de Dominique Venner, qu'il avait rédigé en prison et qui récemment a été traduit en ukrainien et en anglais.
C'était le texte fondamental qui a donné naissance à cette mouvance.
C'est un peu notre que faire, d'ailleurs. Ouais. Un certain léninisme de droite, d'ailleurs. D'ailleurs, on se souvient
très
que, sur un mode un peu provocateur, Dominique Venner avait nommé sa maison d'édition les éditions Saint-Just.
Donc, absolument.
Ça faisait jaser dans pas mal de paroisses, on va dire.
Oui, voilà. C'était aussi une rupture, vraiment, avec le vieux milieu de la droite nationaliste.
Voilà. Donc, il y a un échec électoral cuisant. Le Rassemblement européen de la liberté, et le Mouvement nationaliste du progrès.
Donc, un échec complet sur le plan électoral qui amène Dominique Venner à rompre avec la vie politique et à quitter la vie politique. Alors, partant de là, ces cadets qui sont regroupés autour d'Alain de Benoît, donc Fabrice Laroche, alias Alain de Benoît, de son vrai nom Alain de Benoît, vont décider aussi de quitter la vie politique et de poursuivre le combat autrement, un combat qui sera plus désormais idéologique. Parce que pour eux, avant Lénine, il y a Marx, et avant la Révolution française, il y a les encyclopédistes, les sociétés de pensée, etc.
Voilà, formidablement étudié par Augustin Cochet notamment, qui ont été hérités d'ailleurs plus tard. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les premières réunions de formation de ce qui va devenir le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne se déroulent en mai 68. Avons eu notre mai 68. En fait.
Ça,
d'ailleurs, il y a eu un recueil qui avait été...
La réunion de fondation a lieu en mai 68 à Lyon.
Voilà, où on voit des futures figures, des noms nous qui nous sont personnellement familiers, mais on trouve beaucoup de monde, comme Jean-Claude Vallat, Pierre Vial, Pierre Bérard, Jacques Moureau...
Giorgio Locchi.
Et surtout Giorgio Locchi, dont nous allons reparler, bien sûr, et dont j'ai déjà parlé souvent dans le cadre de cette émission. Et surtout, c'est la volonté de passer à autre chose, à une autre forme d'action. Donc, comme tu viens de le rappeler, les idées précède en quelque sorte bon, les processus révolutionnaires, donc la fameuse notion de métapolitique.
Absolument. Donc ça va être la métapolitique. Métapolitique qui va consister à proposer une vision du monde global qui va aborder tous les champs de la connaissance, de la biologie à la philosophie, de l'histoire à la sociologie.
Alors, si je peux me permettre, d'ailleurs, je veux préciser que dans ton livre, il y a aussi beaucoup d'encadrés.
Oui,
qui sont très éclairants.
Des focus.
Et dans l'un d'entre eux, où tu parles de métapolitique, je voudrais reprendre la définition qu'avait donnée Guillaume Fay, dans son petit lexique du Partisan européen. Donc lui, il a défini la métapolitique comme suit. Diffusion dans la mentalité collective et dans la société civile de valeurs et d'idées ou idéologèmes, en excluant tout moyen et toute visée politicienne, comme tout étiquetage politique, mais selon une visée de grande politique, terme nietzschéen, ainsi l'on est, c'est-à-dire de recherche d'un impact historique. La métapolitique se situe en dehors et au-dessus de la politique politicienne, laquelle est devenue théâtrale et ne constitue plus le lieu du politique. Bon, c'est un constat qu'il a fait dans les années 80, on pourrait peut-être le nuancer sur certains points, mais globalement,
oui,
il s'agissait de ça.
Qui reste très juste.
Donc il y a une décennie, la première décennie, en fin de compte, c'est la naissance du Grèce, tu l'as mis sur un plan chronologique jusqu'en 1972, un petit peu, c'est le premier essor, avec...
Et la création de Nouvelle École, de la revue
voilà,
Nouvelle École,
dire,
qui est la revue d'Alain de Benoît, la revue d'idées. Qui va avoir très rapidement un gros succès, qui a une vocation à être diffusée dans le milieu académique. Et dès les premiers numéros, il y a de très bons retours parmi les intellectuels de droite, que ce soit français, mais également dans un réseau d'intellectuels européens. Et donc, le succès de la revue va lui permettre de passer à un stade plus professionnel d'impression, etc. Et elle va prendre très rapidement sa belle allure qu'elle a aujourd'hui.
Voilà,
moins la couleur.
Évidemment. Puis on voit surtout bon, des références, des auteurs qui figurent le comité patronage, bon, qui montrent une certaine intelligentsia de l'époque, qui fera d'ailleurs les bonnes pages de plus tard du recueil d'Alain Benoît, Vue de droite, on en reparlera peut-être rapidement, qui paraîtra quelques années après. Donc on voit des noms comme Dumézil, Nietzsche, Spengler, Eliade, Gustave Le Bon, Vilfredo Pareto, mais aussi, surtout, Edmond Rostand, Louis Rougier, Jean Rostand. Louis Rougier, Alexis Carrel, Heisenberg, Wittgenstein. Donc là aussi, on est d'une première période, donc qui est très marquée d'ailleurs par l'école de Vienne et un petit peu l'empirisme logique.
Voilà, c'est ça, qui est assez scientiste, assez rationaliste par certains aspects, mais ça ne va pas durer très longtemps.
On voit déjà s'exister également, notamment à travers les ouvrages de Louis Rougier, une critique assez féroce
du christianisme. C'était déjà présent au moment d'Europe Action, mais là, ça va être très fortement présent. Il y a une critique forte du christianisme, tant sur le plan philosophique, donc là, une critique de l'universalisme, de l'égalitarisme.
On se souvient tous les deux du petit ouvrage Le conflit du christianisme primitif de la civilisation antique. Il y avait aussi à l'époque le débat avec Jean-Luc Marion, avec son Dieu. Voilà, donc c'est marqué effectivement par un certain rationalisme scientiste qui marque le premier Alain de Benoît avant l'empreinte nietzschéenne.
Voilà, avant l'empreinte nietzschéenne qui est apportée par, on peut le dire, quelqu'un comme Giorgio Locchi, Alain de Benoît le dit, a été une des personnes qui l'a le plus influencé dans sa vie. Donc, à partir de ce moment-là, on va dépasser cet anti-christianisme très rationaliste et il va se transformer progressivement en une vision païenne du monde.
Et surhumaniste.
Voilà,
j'avais déjà rappelé dans le cadre d'une autre émission le rôle de mentor. Par son oralité d'ailleurs, par sa transmission orale que jouait Giorgio Locchi à Saint-Cloud, où il conviait la plupart des grands figures du Grèce. Tu as bien sûr cité Alain de Benoît, mais on avait déjà aussi Guillaume Fay, on avait Pierre Viard.
Guillaume Fay arrive un petit peu, oui.
Un peu après, mais c'était le jeune étudiant qui était à Sciences Po, avec François Revet, Bernard Huyghe, etc., dans ce cercle. Mais voilà, on va avoir tout au long des années 70 une maturation, un magistère exercé par Locchi, qui marque profondément cette période des années 70 avec son empreinte nietzschéenne, surhumaniste, qui a toujours été assumée par Locke et que nous pouvons aujourd'hui, dans laquelle nous pouvons nous replonger avec les rééditions récentes qui ont été faites de ses définitions ou son ouvrage sur Wagner, notamment pareil aux éditions de la Nouvelle Librairie et situe l'Iliade. Donc il y a un envol qui se fait avec également une revue qui d'abord était initialement un bulletin intérieur et qui va désormais paraître en kiosque.
Oui, c'est en 1973, c'est la revue Élément. En fait, 73, c'est vraiment la date charnière. Oui. On passe d'une période de mise en place à une période où là, vraiment, les initiatives vont se multiplier. Et donc, ça va être déjà la revue Élément pour la civilisation européenne. Alors, ça, c'est une revue. Donc, il y a déjà Nouvelle École, qui est une revue théorique. Mais Élément, c'est plus une revue de combat raccroché à l'actualité politique, culturelle, etc., qui va rebondir sur les sujets.
On a été marqué, par exemple, nous, on a été particulièrement marqué, entre autres, par les chroniques cinématographiques du Michel Marmé.
Oui, voilà.
De ceux qui m'ont éduqué à la cinéphilie.
En parallèle, organisait un ciné-club à Paris, mais aussi qui a pu se déplacer à Lyon ou dans d'autres grandes villes. Oui, ces petites critiques cinématographiques dans Éléments étaient absolument remarquables.
Voilà,
chaque film était passé au crible de la vision du monde du Grèce à cette époque aussi, qui était très marquée par le Conrad Lorenz.
Exactement, par l'éthologie.
Voilà, par l'éthologie. Voilà, donc,
il y a vraiment des. Il a acquis sur la sociobiologie.
Des analyses absolument remarquables. Et tout ça en une trentaine de lignes. Enfin, des petits textes très courts, très percutants.
Et puis c'était l'époque aussi où, par exemple, Alain Benoît et Michel Marmeur signaient régulièrement dans Valeurs Actuelles, dans la presse valmonde de Raymond Bourgine à l'époque.
Ils se sont rencontrés d'ailleurs à Valeurs Actuelles. Ouais. Et Michel Marmeur était séduit par la vision du monde du Grèce. Et 73, c'est vraiment la date de l'envol. Et puis il y a d'autres initiatives qui sont lancées, des revues plus thématiques, une sur le Nation Armée, visant les milieux militaires et les réservistes, en réponse à toute la période des comités de soldats, etc. Et une autre aussi extrêmement intéressante, une Nouvelle Éducation, qui visait le monde de l'éducation nationale.
Oui, par Fabrice Valclérieux.
Voilà,
mais également aussi, comme tu parles des débats de l'époque, le débat sur l'avortement, la question de la sexualité. Enfin, et là aussi, on voit que ces jeunes intellectuels ont des positions qui tranchent un petit peu. Des tierces voix, des tierces positions, par exemple sur la question controversée de l'avortement.
Oui, voilà.
Pareil, la révolution, comment se positionner par rapport à la révolution sexuelle, etc. Donc il y avait des débats, vraiment des débats de l'époque, le débat entre le régionalisme et le nationalisme. On se souvient des débats entre Mabir et Marmène, notamment, ouais. Etc. Et puis les premières attaques. Les premières attaques qui viennent des milieux.
Milieu de la Nouvelle Action Royaliste, ouais. Donc qui est une scission de gauche de l'action française, de la vieille maison, autour de gens comme Bertrand Renouvin. Et c'est eux qui vont les premiers attaquer en 73 la Nouvelle Droite, avec les accusations classiques des heures les plus sombres de notre histoire, de racialisme, de relents de national-socialisme, etc. etc.
Ouais, on voit que ce n'est pas venu de l'extrême gauche. Hein,
c'est bien parti de ces milieux-là dans un premier temps. Année 73, date vraiment charnière pour un certain nombre d'initiatives qui vont encore se développer.
On le voit avec l'acquisition, on parlait tout à l'heure de cette bâtisse provençale le siège d'université d'été.
C'est
d'ailleurs le Grèce qui a lancé ce concept, bien avant les partis politiques,
absolument.
En tout cas quelques temps avant.
Ça va être
avant.
Aussi le lancement d'un mouvement de jeunesse qui va se transformer en mouvement de scoutisme, qui va d'ailleurs rapidement prendre son autonomie par rapport aux Grèces.
Exactement, voilà. L'idée de transmettre en fin de compte.
Voilà.
L'organisation aussi des premiers solstices, l'idée un petit peu de ritualiser des traditions païennes.
Ça, c'est avec l'orientation païenne qui est très clairement affirmée dans ces années-là.
Voilà, on peut parler du rôle de Jean Mabir ou de Maurice Rollet dans ce processus, ou de Pierre Vial.
Et d'Alain Benoît, qui est le responsable du groupe de travail Tradition, qui va produire un travail sur les traditions d'Europe qui est absolument remarquable et d'une grande fécondité.
Voilà, dans la commission des traditions, il faut savoir que vraiment, là, on commence à avoir un travail aussi communautaire qui est fait sur le plan doctrinal, théorique. On voit que Maurice Rollet raconte les virées avec Alain Benoît en Allemagne, ramener des caisses entières de documents, etc. Enfin, c'est vraiment une période aussi où commencent à se mettre en place les premiers colloques
Hein, absolument aussi.
Qui attire un public croissant. On est en pleine période giscardienne et on voit également aussi des Alain Benoît et quelques autres vont servir de plumes à des ouvrages politiques.
Hein, de oui, voilà. Le plus connu, c'est Michel Poniatowski, qui est l'âme damnée de Valéry Giscard d'Estaing, si je puis dire, et qui va être son premier ministre de l'Intérieur. Donc c'est une personnalité politique extrêmement importante à l'époque. Et un de ses livres va être écrit intégralement par des journalistes du Grèce, dont un chapitre complet sur les Indo-Européens, qui est écrit par Alain de Benoît lui-même.
Voilà. C'est clair, hein. Bon, nous avons tous les deux l'ouvrage, donc nous l'avons lu, donc vous le constatez. Et on arrive à 1577 avec la parution donc, d'un recueil considérable qui est basé sur des chroniques d'Alain Benoît, chroniques bibliographiques qu'il faisait dans le cadre notamment de Valeurs Actuelles, du Spectacle du Monde, donc intitulé Vue de droite, et qui va recevoir le Grand Prix de l'Académie française.
C'est ça, voilà. Donc c'est une anthologie critique des idées contemporaines qui aborde absolument tous les champs du savoir, qui organise ses articles sous l'angle de thématiques, vraiment très. C'est une vision qui présente ainsi une vision du monde extrêmement séduisante. Et c'est sans équivalent à gauche, et ça rencontre un énorme succès médiatique, enfin dans les journaux à l'époque, et également un succès de librairie, vu qu'il est réédité plusieurs fois. Le succès est tel que Alain de Benoît est invité à la grande émission de radio du soir, faite par Jacques Chancel, qui s'appelle Radioscopie, qui est une longue émission où l'invité peut s'exprimer longuement, et ça, c'est un très grand succès, parce qu'il est également aussi bon à l'écrit qu'à l'oral, aussi bon à l'oral qu'à l'écrit, je dirais. Voilà, donc ça c'est vraiment
Il y a eu apostrophe aussi.
Oui, alors apostrophe, c'est après la campagne.
C'est après la campagne,
en septembre, après la campagne de presse. Voilà, donc c'est déjà c'est un véritable pavé dans la mare qui secoue l'intelligentsia de gauche.
Et voilà, la droite se pique de pensée et elle pense bien.
Ils sont forts, ils abordent des sujets qu'on découvre.
Et surtout, parmi les débats les plus brûlants de l'époque, les plus vifs de l'époque. Hein, on parlait tout à l'heure de l'inné de l'acquis. C'est à l'époque aussi la nouvelle droite va fonder sa maison d'édition.
Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs Vue de droite et édité aux éditions
Copernic. Voilà, donc on voit des ouvrages qui abordent les questions de race, intelligence, la sociobiologie, avec les ouvrages de Heisenk, l'accent mis sur les travaux de Konrad Lorenz. Il y avait déjà une nouvelle école consacrée à cette notion. Donc voilà, c'était des questions qui, à l'époque, suscitaient de vifs débats, d'une certaine manière. Et alors là, il va y avoir l'explosion en quelque sorte médiatique avec cette campagne de presse.
Voilà, elle est liée, c'est Vue de droite, mais c'est aussi, ça va être surtout l'implantation des journalistes du Grèce au Figaro et au supplément hebdomadaire du Figaro. Donc Louis Powells, qui est à ce moment-là, a réussi à convaincre Robert Hersan, le patron du Figaro, de créer un supplément hebdomadaire. Et Louis Powells a été totalement séduit par les idées du Grèce, par les idées païennes, par le paganisme, etc. Et donc il va recruter, pour constituer la colonne vertébrale de son supplément, il va recruter les journalistes du Grèce. Donc on va d'abord avoir un supplément en papier journal, et il va se transformer en véritable magazine polychrome, etc., et qui va rencontrer un succès énorme. Et là, c'est un changement d'échelle totale, parce que les idées du Grèce qui étaient exprimées dans Éléments, au profit de quelques milliers de lecteurs, puis partiellement dans Valeurs Actuelles, au profit de quelques dizaines de milliers de lecteurs, là, elles se trouvent diffusée auprès de centaines de milliers de lecteurs, et beaucoup plus, un lectorat encore plus large, parce que à cette époque-là, le Figaro Magazine a un énorme succès, et on trouve ce magazine dans toutes les salles d'attente de médecins, de dentistes, les salons de coiffure, etc. Donc c'est plusieurs millions de personnes qui ont accès à des articles sur les solstices d'été, les Indo-Européens.
Je me souviens avoir démissionné des vieux numéros de cette époque chez mon grand-père, qui rétrospectivement, en quelque sorte, parce que j'ai connu le Grèce après cette période, mais voilà, on retrouvait c'est une Grèce incroyable.
C'est un impact énorme, et là, l'intelligentsia de gauche se rend compte qu'ils ont un problème. Quoi.
On pourrait aussi signaler rapidement la naissance aussi du... plus ou moins parallèlement, du club de l'horloge.
Oui, voilà.
Avec d'anciens membres.
Qui est une scission amicale, je dirais, dans un premier temps au moins, d'anciens du Grèce qui ont intégré l'École nationale d'administration et qui veulent exercer une opération de séduction dans les milieux politiques et dans les milieux de la haute fonction publique.
On peut citer le nom de notre ami Jean-Yves Le Gallou.
Voilà, Jean-Yves Le Gallou, qui est la cheville ouvrière de l'opération avec Yvan Blot. Et ils vont publier dans ces années-là, deux livres, La politique du vivant et Les racines du futur.
Les racines du futur, surtout.
Vraiment, il n'y a pas une ligne de ces livres qui ne pourrait ne pas être signée. Voilà,
en tout cas, la première mouture des racines du futur. Voilà. La réédition, ce ne sera même plus amendée. Mais voilà, donc il y a tout ce contexte,
contexte qui fait que l'intelligentsia de gauche n'en peut plus et va réagir. Avec une campagne de presse d'une violence extraordinaire. Donc, ça commence fin juin 79. C'est comme toujours Le Monde qui ouvre le feu en parlant d'un titre « La nouvelle droite s'installe ». La semaine suivante, c'est le Nouvel Observateur.
La couverture.
Couverture, l'insigne du Grèce sur fond rouge. Donc ça fait frémir, ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, comme on s'en doute. Et puis après, toute la presse va reprendre et ça va passer à l'international. Ce vont être des milliers d'articles sur la nouvelle droite qui vont être publiés et qui vont être écrits par des gens qui, généralement, n'ont pas lu une ligne ni d'éléments, ni de Nouvelle École, ni des livres d'Alain de Benoist, ni des auteurs dont il parle. Enfin, voilà. On ressasse des âneries.
Les clichés, les plus caricaturaux, etc., voilà. Qui étaient repris. C'est d'ailleurs à cette époque qu'Alain Delon va sortir son ouvrage Les Idées à l'endroit, Libre Allié, qui reprenait...
C'est en réponse à cette campagne de presse, et ça va lui permettre, aux demandes, d'être invité chez Bernard Pivot, donc à l'émission Apostrophe, qui était l'émission culturelle phare de la télévision. Et qui avait lieu le vendredi soir, donc là aussi...
Et puis bon, c'est une époque qui a pu être aussi troublée par des attaques, mais des attaques même physiques, avec l'attaque du colloque.
Oui, avec l'attaque du colloque, par la Ligue de Défense Juive...
En décembre 79, qui
attaque le colloque avec des gens équipés de casques, de barres de fer, etc. Donc il y a plusieurs blessés parmi les personnes qui assistent au colloque. Bon, ils sont repoussés, mais pour autant, dans les minutes qui suivent, ce qui prouve que l'opération était tout à fait montée et que c'était une opération de désinformation préparée à l'avance, dans les minutes qui suivent, une dépêche de l'agence France-Presse indique, donc ça se passe au Palais des Congrès à Paris, indique qu'une délégation de la Ligue de Défense Juive a été attaquée par les assistants au colloque du Grèce. Donc c'est un renversement total des accusatoires. Enfin, c'est totalement fou. Heureusement, il y a un certain nombre de personnes dont on ne peut pas mettre en cause la parole qui témoigne et qui lance une pétition pour contrer la campagne de presse.
Avec Riegel, notamment.
Voilà, c'est ça. C'est stoppé, cette attaque de désinformation est stoppée. Mais pour autant, le propriétaire du Figaro commence à trouver que les choses prennent une mauvaise tournure. Je crois qu'il y a déjà un journaliste qui est licencié pour une faute, un journaliste du Grèce qui est licencié pour une faute. Bon,
minime,
mais... Bon, donc déjà, les choses se tendent. Mais malheureusement, ça ne va pas s'arrêter là. Et c'est en octobre 80, intervient malheureusement un attentat qui vise la synagogue de la rue Copernic. Oui. Cet attentat va faire 4 morts et il est faussement revendiqué. par un groupuscule néo-nazi. Les spécialistes de l'époque, tous les policiers, les spécialistes savent d'emblée que cet attentat a manifestement été commis par la mouvance palestinienne, vu que ce n'est pas la première cible à être attaquée en Europe. Mm-hmm. À cette époque-là, il y a eu plusieurs attentats en Italie,
oui,
en Angleterre.
Cette période, voilà,
c'est la période des attentats de l'OLP,
etc.
Il s'avéra que c'était effectivement le Front populaire de libération de la Palestine qui était responsable. Pour autant, donc, cette revendication d'un groupuscule néo-nazi permet aux médias de lancer l'idée d'une piste noire. Voilà, une piste noire. Et donc, le président de la LICRA va pouvoir prendre la parole sur une chaîne nationale et accuser le Figaro Magazine et ses journalistes d'être responsables du climat qui a armé le bras des terroristes. Enfin, c'est une accusation absolument scandaleuse, monstrueuse, mais pourtant qui va porter. Donc le patron du Figaro va subir des menaces de la part de Publicis, qui va le menacer de lui retirer ses contrats de publicité. Et là, à partir de là, en bonhomme d'affaires, il va dire « on va régler le problème, on vire les journalistes ». Et donc, les journalistes du Grèce vont être progressivement tous licenciés, à commencer par le premier, rédacteur en chef, Jean-Claude Valla. Puis, en moins d'un an, l'équipe du Grèce sera liquidée du Figaro Magazine.
Voilà, donc il faut aussi préciser plusieurs choses concernant le contexte. Donc, nous sommes au début des années 80, donc la venue de la gauche au pouvoir en 1981. La droite qui se recentre vers une vision libérale, à la fois de l'économie.
Il y a Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre. Donc,
Et surtout un tournant anti-occidental qui avait déjà été esquissé par ce très long article publié dans Nouvelle École en 1975.
Il était une fois l'Amérique.
Ouais. Voilà, signé par Giorgio Locchi sous pseudonyme et Alain Benoît, qui avait d'ailleurs commencé à provoquer des dissensions avec Raymond Bourgis notamment, hein, le milieu allemand, certains départs, notamment François Dorcival, hein, figure aussi historique de l'époque Europe Action Fen. Et d'autre part, il y a ce tournant anti-occidental qui avait notamment été manifesté par une fameuse couverture de la revue Éléments, hein, pour en finir la situation occidentale, avec cette magnifique peinture techno-réaliste d'Olivier Carré, grand ami de Guillaume Fay, et d'ailleurs un article mémorable de Guillaume Fay, et puis aussi ces orientations pour les années décisives, cette brochure qu'Alain Benoît fait paraître, et qui va faire du bruit dans les chaumières, avec cette fameuse phrase, hein, moi je préfère passer les jours qui... Peut-on passer les jours qui nous restent à l'ombre
porter la casquette de l'armée rouge n'est pas une perspective très agréable, chante, mais c'est pas une perspective agréable de passer les jours qui restent à manger dans des hamburgers du côté de Brooklyn.
Voilà, mais il y avait d'ailleurs, c'était l'époque aussi de solidarité, de Solidarność en Pologne. Le putsch de Jaruzelski.
Il y a eu une couverture d'éléments, Mourir pour Danse, qui est une référence à Tiroir, à Mourir pour Danse.
Et puis déjà, une certaine russophilie géopolitique qui s'exprimait notamment à travers un article de Guillaume. Voilà, Et puis, c'est une fascination un petit peu pour les bottes, qu'on en dit. Hein, la revue regorgée de photos des soldats de l'armée est-allemande, qui d'ailleurs ont beaucoup d'allure. Ouais. Donc en fait, on a quand même une radicalisation idéologique. Et un tournant idéologique qui se fait avec cette rupture contre ce qu'on appelait, on continue à désigner l'Occident. Peux-tu clarifier rapidement un petit peu ce qu'on entendait par Occident et qu'on entend plus ou moins toujours?
Oui, alors l'Occident c'est un système qui repose sur le plan géopolitique sur les États-Unis et sur le plan économique sur le libéralisme et sur le plan philosophique sur l'universalisme, disons un universalisme égalitariste. Enfin bon, voilà. Donc c'est ce système complet qui est rejeté absolument et clairement désormais par le Grèce qui n'a plus rien à attendre de la droite politicienne, donc qui expose fermement ses idées. Et c'est pareil d'ailleurs sur le plan spirituel. C'est en 1981 que qu'Alain Benoît publie son livre, assez fondamental, Comment peut-on être païen.
Comment peut-on être païen. Et puis il y a aussi, juste avant,
Le système des peuples.
Voilà. Le premier ouvrage, maître ouvrage, combien visionnaire, on le redécouvre aujourd'hui, de Guillaume Fay, qui d'ailleurs apparaît comme la deuxième tête pensante du Grèce. Bon, deux personnalités très différentes, avec des sensibilités propres, mais qui aussi dynamisent.
C'est une enfin, ça fait une pluralité de personnalités, en fait, à cette époque-là, parce qu'on a Alain de Benoît, Guillaume Fay, mais il y a aussi Pierre Vial aussi.
Bien sûr.
On a aussi des gens comme Jean-Claude Vallat, Yves Christen, qui travaille beaucoup sur la sociobiologie. Il y a beaucoup de choses intéressantes, et c'est vraiment une polyphonie, mais qui illustre une vision du monde qui est partagée à cette époque-là par l'ensemble du groupe. Donc, et qui s'exprime dans tous les numéros d'éléments.
Et voilà, il y a un grand dynamisme au niveau organisationnel, hein, toutes les années 80, avec des unités régionales, des cercles régionaux, des conférences et des séminaires réguliers. Guillaume Fay qui parcourt la France d'est en ouest, de nord au sud, toute l'année.
En fait, la campagne de presse a eu un effet paradoxal, c'est qu'elle a attiré beaucoup attention sur le Grèce et la Nouvelle Droite, et qu'elle a favorisé elle a servi de campagne d'adhésion à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont rejoint la Nouvelle Droite à cette époque-là. Bon, pour autant, ça ne va pas durer, parce qu'il va y avoir des événements extérieurs qui vont venir.
Exactement. Avant d'en arriver là, je crois qu'on pourrait faire une petite pause musicale avec justement un membre du Grèce qui fut un petit peu le barde communauté.
Voilà, le barde
avec
de la communauté.
Des chansons, des ballades qui nous ont profondément marqués. À cette époque-là.
Et le docteur Merlin.
Le docteur Merlin, voilà. Donc, le cher docteur Merlin, donc avec un morceau.
Et on a une pensée pour lui, voilà.
Ben, tout à fait. Donc, il avait publié plusieurs cassettes à l'époque, qui notamment ont marqué aussi sa sensibilité païenne. Sur un mode peut-être qu'il pourrait percer aujourd'hui comme polémique, les temps ont changé. Mais à l'époque, ça nous a vraiment galvanisés, enthousiasmés.
Mais pause dans la préparation du baccalauréat, c'était au son du docteur Merlin.
Non, moi, j'en fredonne encore par cœur. Je l'ai tellement épuisé, magnifique. Ces cassettes. Alors, je propose à nos auditeurs le morceau tout simplement intitulé Excalibur, du nom de l'épée du roi Arthur et d'un film qui a marqué et qui a été commenté dans nos milieux.
Surgira une main qui se tendra, apportant Excalibur, le retour du roi Arthur. Alors nous nous lèverons, alors oui nous marcherons, le long des mille sentiers, nous le peuple des forêts. Le désert sera chassé, le marchand sera brisé, à nos peuples sera offert l'étendard à Rousselaire. Chevalier, la table ronde deviendra le cœur du monde, d'un monde qui renaîtra, car Apollon reviendra. Un jour du lac surgira une main qui se tendra, apportant Excalibur, le retour du roi Arthur.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Bien, nous reprenons l'antenne. Je rappelle, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, du Libre Journal de Pascal Lassalle, qui a aujourd'hui l'immense plaisir et honneur de recevoir François Dambelin, un vieux camarade, hein, donc, pour parler justement de notre maison mère, notre alma mater, avec son ouvrage intitulé « La Nouvelle Droite, un panorama historique et métapolitique », coédité par l'Institut Iliade et l'édition de la Nouvelle Librairie. Alors, nous venons de diffuser une belle chanson, une belle ballade du docteur Merlin, extraite de son double album donc intitulé Péché de jeunesse. Oui, de Péché de jeunesse. Bon. Voilà, extrait de ses trois premiers albums qui ont enchanté notre jeunesse militante et studieuse, au bon sens du terme. Alors, les années 80, comme on le disait, c'est un petit peu presque l'apogée de l'histoire du Grèce. Il y a un essor qui a été justement favorisé par la campagne de presse de l'été 79, malgré les déconvenues donc, du Figaro Magazine, plus ou moins reprises par l'expérience de Magazine Hebdo. Mais oui, trop voilà, brève, mais, malheureusement.
L'expérience de Magazine Hebdo, qui est donc un news magazine de droite qui est assez innovant, mais qui va durer un peu plus d'un an, qui n'aura
pareil,
pas le succès.
Puis il y a l'offensive des publicitaires. Quoi.
C'est ça.
Voilà. Du lobby des publicitaires, donc il va faire capoter l'affaire, malheureusement. Hein. Il y avait Jean-Claude Ballard qui était aux commandes avec Alain Lefebvre, si je me souviens bien. Il y a aussi une extension de la lutte, du domaine de la lutte, je reprends ce terme, ce titré Welbeckien, de la Nouvelle Droite sur le plan européen.
Oui.
Dans plusieurs pays, avec plusieurs figures.
Alors, il y a l'émergence en Italie, je dirais que c'est le point central, l'émergence d'une nuova destra italienne. Donc ça, c'est aux alentours des années 78-79. Et immédiatement, il va y avoir des liens très forts qui vont se créer entre ces jeunes militants issus de la mouvance du mouvement social italien.
Du Front de la Jeunesse,
Jeunesse. Et qui vont être séduits par les idées du la Nouvelle Droite française et qui vont eux-mêmes créer leur propre mouvement, leur propre revue.
Et il va y avoir avec Marco Tarchi.
Avec Marco Tarchi,
il y en a d'autres, bien
voilà.
sûr. Non, il y a d'autres, mais...
Notamment. Et donc, il va y avoir des liens très forts qui vont se créer entre ces deux mouvances, la mouvance italienne et la mouvance française. Et avec des échanges croisés, un certain nombre de cadres de la Nouvelle Droite française, en particulier Alain de Benoît, va très régulièrement se déplacer en Italie.
Ouais. La publication de la revue Elementi.
Voilà, effectivement une revue sœur pendant quelques années de la revue Élément, qui sera Elementi en italien, qui reprendra partiellement des articles français, mais qui aura surtout ses propres articles à elle, par des journalistes
bibliographiques comme Diorama Literario, ou même une déclinaison de Nouvelle École, Futuro Presente.
Oui.
Voilà, donc bon, voilà, c'est l'Italie.
Mais aussi des revues sur l'écologie, mais aussi des revues sur le fantastique et la science-fiction. Donc il y a une floraison de revues dans la mouvance italienne qui est très, très, très impressionnante.
Qui veut dépasser un petit peu aussi d'ailleurs l'école traditionnaliste, donc dans le sillage de Jules Evola, et puis aussi de l'activisme extra-parlementaire.
Oui,
voilà, on rappelle qu'on sort des années de plomb.
Et c'est vraiment une rupture. Ils veulent être en rupture avec ces années où beaucoup de militants ont été tués dans des combats contre l'extrême gauche. Tout ça.
Ouais. Alors chez nos voisins du plat pays, ça bouge aussi également,
oui,
avec deux figures qui se détachent, Lupo Wells et surtout Robert Stokers. Quelques mots sur Robert, ses initiatives, je crois que c'est intéressant.
Robert Stokers, il a pendant un moment travaillé au sein de la revue Nouvelle École.
Il était secrétaire de rédaction.
Il était secrétaire de rédaction et puis ensuite il est reparti en Belgique et il a créé plusieurs revues, la revue d'abord Orientation, puis un supplément à cette revue qui est la revue Vouloir, et donc qui vont être publiés pendant une bonne quinzaine d'années et qui vont être extrêmement intéressantes pour les Français que nous sommes, qui sommes souvent de mauvais linguistes. Lui va traduire et va traduire énormément de textes étrangers, enfin
de l'allemand,
de l'allemand, voilà, voilà. De l'italien également,
du flamand, enfin du néerlandais, de l'anglais. C'est...
Il va et donc permettre à un lectorat francophone de découvrir que la France n'est pas seule, que c'est bien la nouvelle droite une vision européenne, mais qu'il y a bien des Européens qui pensent plus ou moins la même chose que donc on a le sentiment, grâce à ces revues, de s'inscrire dans un réseau européen, dans une véritable révolution conservatrice européenne.
Ah, complètement. Là, donc, il nous a ouvert des horizons
Et pendant un moment, il faut bien le dire, à la fin des années 80, quand les revues Nouvelle École et Éléments paraissent de façon très irrégulière, trois ans ça a été le cas, et ben ma foi, le seul à publier ces revues, c'est Stokers, Robert Stokers, qui, voilà, avec sa revue Vouloir en particulier. Donc, il a eu un rôle très important. Ouais,
et ben, il est toujours d'ailleurs le monsieur géopolitique.
Voilà.
Hein, d'ailleurs, son premier dossier d'orientation était un gros travail sur le grand géopoliticien autrichien, le général Jordis von Lohausen,
voilà, qui
sera traduit plus tard dans la nouvelle maison d'édition du Grèce, l'édition du Labyrinthe. Dans les empires et la puissance,
qui
marquera Guillaume Fay en particulier, bon, en tout cas dans l'ère francophone. Et puis surtout, il nous ouvrait des horizons, voilà, comme tu le dis, insoupçonnés, avec toute la sphère nationaliste révolutionnaire allemande,
oui,
à la fois sur le plan historique. À l'époque, on est aussi dans le débat sur la neutralité, sur les euromissiles. Enfin, c'est un débat très vif qui se déroule en Allemagne et ailleurs. Et on pouvait le comprendre dans le contexte de l'époque. Donc vraiment, ça a été un enrichissement considérable. Oui, voilà.
Ces revues étaient bourrées de textes, etc. Bon, elles souffraient peut-être d'une présentation qui n'était pas toujours aussi belle que les revues de la ND française, mais il y avait énormément de matière et c'était vraiment tout à fait passionnant. Donc moi, c'est une figure qui a, même si on peut ne pas toujours être d'accord avec toutes ces analyses.
Non, il y a eu des conflits personnels.
Des conflits personnels, etc.
Qu'il a souvent décliné de manière excessive.
Qu'il a beaucoup apporté. Ces dernières années, il a pris le soin de publier en livre un certain nombre de ses articles. Très nombreux articles qu'il a publiés.
Sur la révolution conservatrice en particulier.
Voilà, je lis toujours ces textes avec beaucoup de plaisir.
Voilà, et puis ils ont fait des horizons jusqu'à la Russie. Les premiers textes d'Alexandre Douguin ou d'autres, toutes ces thématiques, ces débats entre slavophiles, occidentalistes, la question du néo-eurasisme, etc., c'est en grande partie grâce à lui qu'ils ont été accessibles et que même une personne, comme dit, a été mise en contact avec le Grèce à la fin des années 80, début des années 90, etc. On pourra y revenir. Mais voilà, effectivement, il y a quand même toute une dimension européenne qui est extrêmement développée tout au long des années 80 et avec des thématiques qui étaient inhabituelles dans le domaine francophone. Y compris dans le milieu novateur qui était la ND. Quoi. C'est à l'époque aussi, on voit aussi un Guillaume Fay qui développe une activité foisonnante. Il avait aussi
le collectif Avant-Guerre.
Il y a le collectif Avant-Guerre, il y a aussi le collectif de réflexion sur le monde contemporain.
Oui.
Guillaume Fay avait cette facilité aussi d'être en relation avec des universitaires comme Michel Baffezoli et beaucoup d'autres, marqués par les travaux d'Henri Lefebvre. Et puis, il avait ouvert aussi notre attention sur l'école de Francfort, ce qu'on pourrait récupérer de plus intéressant sur les visions de l'école de Francfort. Donc, voilà, il y a vraiment cette dynamique qui nous a marqués.
Ouais.
Lui, se réclamait d'une sensibilité post-moderne, qui déclinera plus tard en archéofuturisme. Donc, tu as parlé de ce collectif Avant-Guerre, avec ses émissions radio.
Qui sont déclinées aussi dans des chansons du Docteur Merlin, mais aussi en bande dessinée. Enfin, c'est une vision de science-fiction.
La musique aussi, il s'appuie beaucoup sur la musique New Wave, sur le post-punk. C'est quelque chose de très
novateur et je me dis, s'il avait vécu une vingtaine d'années plus tard avec les moyens de l'informatique, il aurait pu avoir un impact 10 fois, 100 fois supérieur.
Et c'était une sensibilité propre à séduire les jeunes étudiants que nous étions.
Parce que
par ce côté futuriste, par ce côté aussi d'ouverture, voilà, différents moyens d'expression de la culture populaire, c'était quelque chose qu'on peine encore à imaginer. Malgré aujourd'hui le développement des réseaux sociaux et des différents réseaux médiatiques aujourd'hui. Alors, Cela nous amène à 1986-1987 avec une crise profonde que va connaître la maison mère, donc le Grèce, et surtout liée en partie avec l'émergence aussi d'un phénomène politique le Front National, donc de Jean-Marie Le Pen, et la tentation de la politique pour beaucoup de membres et de figures historiques du Grèce. Peux-tu développer rapidement ?
Oui, alors la chose qui a le plus fort impact sur le fonctionnement du Grèce, ça va être effectivement l'émergence du Front National, qui connaît ses premiers succès électoraux en 83-84, et qui va tout de suite sentir qu'il a le vent en poupe et il a besoin de cadres. Et là, quelqu'un comme Jean-Pierre Sirbois, qui connaît très bien le milieu et qui connaît très bien plusieurs cadres du Grèce, va recruter des cadres du Grèce, va aller les chercher et va leur dire on a besoin de vous. Et il sait que ce sont des gens intelligents, des gens qui travaillent, des gens qui sont organisés, équipés intellectuellement. Et donc il va recruter des cadres du Grèce. Il y aura aussi beaucoup de militants qui vont intégrer le Front National. Et ça va être une véritable hémorragie extrêmement importante. Hémorragie de militants, hémorragie de cadres, dit que la structure va avoir de plus en plus de mal à fonctionner, va rencontrer des difficultés financières. Et quand il y a des difficultés financières, les questions idéologiques se tendent, les choix deviennent plus compliqués, etc. Et donc là, à un moment donné, il y a une rupture. Des gens comme Guillaume Faye s'en vont. Le secrétaire général du Grèce, Pierre Vial, quitte la maison aussi pour rejoindre le Front National. Enfin, voilà, donc c'est une vraie...
Il y a une valse aussi des présidents.
Oui, une valse des présidents, secrétaires généraux. Bon, donc les choses ne vont plus bien. Et en parallèle, Alain de Benoît commence à se dire, il regarde la Nuova Destra italienne, il constate qu'il n'y a pas d'organisation centrale comme le Grèce en Italie. C'est un réseau d'initiatives militantes, de revues, de personnalités, etc. Il n'y a pas d'organisation centrale. Donc j'ai le sentiment qu'à un moment donné, il s'est dit, mais à quoi sert le Grèce ? Le Grèce a attiré la foudre des la campagne de presse. Est-ce qu'il y a encore besoin du Grèce ? Il va penser que oui, parce qu'il y a une nouvelle équipe de jeunes militants qui vont prendre le relais.
Et voilà ce que j'allais y venir, c'est-à-dire des tentatives un petit peu de régénération, à la fois des revues, notamment Éléments, et puis aussi un petit peu la structure. Bon, on l'a vécu.
Voilà,
aussi, j'ai vécu ces débats et ces tentatives, mais notamment la nouvelle droite jeunesse.
La nouvelle droite jeunesse,
donc,
voilà,
c'est ça.
Voilà.
J'en étais modestement membre à l'époque.
Outre toi, on trouve des gens comme Charles Champetier, Xavier Marchand, des gens qui viennent d'horizons assez variés, de la droite radicale, mais aussi du gaullisme, mais aussi de l'UDF, d'un peu partout. On a quelqu'un qui vient des milieux post-situationnistes, il ne fait pas partie de la nouvelle droite jeunesse, mais qui va prendre la rédaction en chef de la revue Crisis d'Alain de Benoît. Une véritable régénération du système avec des gens qui arrivent, qui ont été séduits par les idées de la nouvelle droite des années 80. Voilà.
Oui, rappelons que Charles Champetier avait déjà organisé un institut de documentation et d'études européennes. Et sa revue Les Cahiers européens, qui était déjà une vulgarisation de certaines thématiques
sur les Indo-Européens, sur
l'Occident, les fêtes de Noël, les Indo-Européens, etc. Voilà, comme tu l'as dit. Donc là, c'est ce qui va propulser d'ailleurs Charles Champetier au sein de...
Voilà, il va devenir à 25 ans rédacteur en chef d'Éléments, qui à ce moment-là donc a bien des difficultés. Et donc il va relancer la revue avec de nouvelles thématiques. Des forces quand même réduites, mais ça va prendre...
Oui, des ruptures qui se radicalisent. Bon, Robert Stoeckers, notamment, qui a rompu en 1992 avec le Grèce, qui va organiser avec d'autres anciens membres du Grèce un réseau pan-européen qui prend le nom de Synergie, donc qui fera des universités d'été un petit peu concurrentes. Puis il y a un contexte difficile.
Un contexte très difficile, parce qu'en fait, à cette époque-là, la nouvelle droite a perdu absolument tous ses accès extérieurs dans les grands médias.
Oui,
dans
on rappelle que le Monde rendait compte des colloques du Grèce, de Benoît Publier chez Albin Michel.
Ouais, voilà donc, et tout là, ça, c'est fini. Alain de Benoît ne peut plus publier ses livres qu'au sein des maisons d'édition internes, donc avec une possibilité de diffusion très réduite. Enfin, voilà, tout s'est fermé. Les seuls canaux d'expression extérieure, nous y sommes, c'est Radio Courtoisie à l'époque, ouais, avec quelques libres journaux qui accueillent les gens du Grèce, et puis quelques revues de la droite, comme Le Choc du Mois, naît à l'époque à l'orée des années 90. Mais donc, vraiment, la situation est très très difficile.
Voilà. On a eu la création aussi de Terre et Peuple, Pierre Vial, donc au sein du Front National, qui voulait. Il y a aussi la scission du Front National à la fin des 80, et puis beaucoup d'anciens cadres du Grèce qui vont sur Bruno Maigret avec son mouvement. Oui.
Le MNR.
MNR, National Républicain, mais qui sera un feu de paille en quelque sorte, et qui sera un échec.
Alors, on n'a pas parlé d'une chose, c'est Crisis. C'est Crisis, oui. Alain de Benoît qui décide de créer une revue autonome qui n'est pas de la nouvelle droite, mais qui va accueillir des gens un peu issus des auteurs, issus d'un peu tous les milieux, une revue intellectuelle qui pose des questions et qui va être extrêmement intéressante. Une tentative aussi de nouer le dialogue autrement avec les milieux intellectuels de gauche intelligents, enfin véritablement, qui sont prêts à débattre.
Et qui ne plaira pas à tout le monde.
Ça ne plaira pas à tout le monde.
Il y a l'affaire Rouge-Brune en 1993.
Ça va déclencher, évidemment, sera un certain succès, ça va déclencher à nouveau des campagnes polémiques, donc ça sera en 1993, l'affaire des Rouges-Bruns, suite au contact qu'avait pu avoir Alain de Benoît, tant avec les milieux marxistes qu'à cause de son voyage à Moscou, à la rencontre des milieux patriotiques.
Et puis l'apparition de l'Union internationale, donc.
Et puis il y aura une deuxième occasion dans les années 90, ce sera l'apparition d'un numéro de Crisis sur le thème de l'art, art non-art. Voilà.
Alors là, l'art contemporain, il ne fallait pas y toucher.
Parler de non-art pour l'art contemporain, c'est comme si on parlait d'art dégénéré. Donc tout de suite, c'est une avalanche d'articles, de condamnations, de critiques. Donc la situation est évidemment très, très
On peut lire aussi l'actualité internationale très rapidement avec la première guerre du Golfe, les bombardements de la Serbie pour l'affaire du Kosovo à la fin des 90, le contexte de l'éclatement de la Yougoslavie.
C'est ça qui débouche sur une action. Charles Champetier est à la manœuvre pour essayer de lancer un collectif, le collectif Non à la guerre.
Laurent Ozon qui manifeste également une vision différente de l'écologie, ce qu'elle fut dans les années 70. Un numéro aussi d'éléments qui a été publié là-dessus. Et puis la revue Le Recours aux forêts de Laurent Ozon qui va faire un petit chemin,
qui va être un compagnon de route. Celui de la nouvelle droite pendant plusieurs années,
jusqu'à la fin des années 90. Ouais. D'une certaine manière. Alors on arrive à 2001, encore à nouveau des soubresauts, et avec le retour d'une figure qui ne laissait pas indifférence, Guillaume Faye.
Voilà, qui s'était éloigné donc à la fin des années 80, qui avait disparu de la circulation. Enfin, on savait qu'il était devenu à un moment
On le voyait sur les écrans télévisés de temps en temps.
C'est ça, pas pour le meilleur, mais en justicier radiophonique ou autre. Il revient à une activité intellectuelle vers la fin des années 90, 99, 98, 99.
Avec des entretiens donnés à Réfléchir et Agir et Éléments, et puis l'apparition de l'archéofuturisme.
C'est ça, qui est, à mon sens, son dernier bon livre.
Moi, j'inclurai Pourquoi nous combattons également. Mais c'est vrai qu'après, ça commence à décliner, malheureusement. Il y a eu la colonisation de l'Europe, qui était quand même visionnaire.
Ouais.
Voilà, même si déjà, on pouvait montrer une inflexion intellectuelle, mais quand même, aujourd'hui, avec le recul, à 25 ans, on peut voir que c'était un ouvrage visionnaire. Et puis, très rapidement, des polémiques, une grosse polémique aussi interne qui a eu lieu entre les représentants du courant identitaire et puis une partie de la rédaction d'Éléments avec Charles Champetier, qui, notamment sur la question de l'immigration. Il y a eu des débats très vifs avec un cercle d'extristes.
Alors, sur l'immigration, c'est pas tant sur le fond, personne n'est était évidemment favorable à
l'immigration. Mais sur les solutions apportées.
Mais sur, oui, sur la question de l'identité, est-ce qu'il faut une identité vraiment, s'arrêter une identité figée, ou est-ce que l'identité des Européens, c'est pas une capacité à se transformer?
Non, mais même s'il fallait accepter des communautés halogènes, oui. dans une vision multiculturelle, un peu à la britannique, d'une certaine manière. Donc ça, bon, il y a eu des numéros d'éléments, il y a eu des débats, bon, quand même assez vifs, auxquels on a pu prendre part.
Oui,
moi,
oui,
je m'étais positionné aussi, mais c'est vrai que période très difficile, et surtout le départ de Charles Champetit au tout début des années 2000,
2001,
dans cette ère inaugurée par le 11 septembre, la suite des tours.
Et qui est suivie par le...
Alors, comme tu le... Bon, ce retour de Guillaume Fay, bon, en fait, ça sert un feu de paille, de certaine manière. Voilà. Bon, pour X raisons, il s'éloigne. Il va continuer son travail éditorial, je vous dis, avec une certaine inflexion intellectuelle par rapport à ces années de celui que je qualifie de jeune Guillaume. Mmh. Et surtout, bon, il y a la période que tu qualifies de bénédictine pour Éléments, c'est-à-dire, bon, où, en fin de compte, Éléments sera... il y aura un duomvirat qui va faire un peu, si je puis dire, la pluie et le beau temps au sein d'Éléments, c'est Alain Benoît et Michel Marmeur.
Ouais. Voilà, c'est
les vieux complices
qui vont
et qui vont mettre en avant, accentuer sur leur thématique favorite,
sur leur thématique favorite, voilà. Mais aussi et de façon tout à fait pertinente de quantité de sujets, hein, la critique du libéralisme, la notion de gouvernance, l'apparition de la notion de la question du populisme, etc. Un gros travail là-dessus, mais c'est sûr que sur un champ thématique qui est le leur.
Puis un hyperactivisme d'Alain Benoît, aussi, comme tu le soulignes.
Mais bon, ils vont également, parce qu'ils voient l'avenir arriver, ils vont également chercher à trouver des nouvelles plumes aussi. Mmh. Hein, parce qu'il y a eu, pendant les années 90, ces choses ont été compliquées, donc ils vont faire monter une nouvelle génération. Donc ça va être François Bousquet, ça va être Pascal Essérick, alias Pascal Ménadier, qui est...
On peut le dire aujourd'hui.
Oui, on peut le dire. C'est écrit dans Le Monde encore samedi dernier. Donc voilà, il cherche à faire monter une nouvelle génération de plumes pour écrire dans Éléments et pour prendre la main dans Éléments. Parce qu'ils savent que, voilà, ils sont pas éternels et qu'il y a besoin de qu'on arrive vers un changement d'époque, très probablement, et qu'il y a besoin d'une nouvelle équipe pour prendre la tête d'Éléments. Et ce sera le cas à partir de 2011, où Pascal Essérick, François Bousquet et Patrick Luzinski vont prendre les commandes de la vieille
et
revue.
Et on a aussi une certaine séduction d'Hélène Benoît, en tout cas une volonté peut-être de jouer un rôle dans le national-populisme qui est initié par Marine Le Pen à partir de 2011. Il y a eu même une ouverture à des figures comme Alain Soral. Bon,
c'est ça, il y a un moment donné, Alain Soral se retrouve à écrire dans le même magazine qu'Alain Benoît, donc ce sera Flash. Mmh. Bon, mais c'était l'époque où Alain Soral était au Front National, et ça ne va pas durer, hein, ça dure 3-4 ans, et puis ensuite...
Puis il y a d'autres initiatives métapolitiques et éditoriales qui sont prises à cette époque-là, il y a la création de l'Institut Polémia,
par Jean-Yves de Gallo. Ça, c'est le comment dire, c'est le fruit de la rupture de la scission du Front National. En 2002, après la fin de l'aventure Bruno Maigret, on va avoir un certain nombre de cadres d'anciens cadres du GRES qui vont se retrouver sans occupation, qui vont plus avoir de...
Jusqu'à la prochaine.
Et qui vont revenir à leurs premières amours, la métapolitique. Donc ce sera Jean-Yves Le Gallou avec son site Polémia, sa vision du combat de la websphère contre l'infosphère, sa vision de la tyrannie médiatique, un travail énorme. Un travail fondateur, on peut le dire.
On est là vraiment aussi le décollage d'Internet, les premiers réseaux sociaux.
Il saisit l'occasion, il perçoit parfaitement.
Il prend le train en marche.
Il prend le train et il s'installe dedans et, ma foi, il prend parfois les commandes. Et donc ça va être un gros travail. On va avoir quelqu'un comme Philippe Millot qui va s'investir dans la mouvance identitaire et qui va lui injecter des idées solides, des idées qui viennent de la nouvelle droite.
Et puis voilà, son génie organisationnel.
C'est un excellent organisateur, et puis il rebondira ensuite dans un projet auquel personne ne croyait, qui sera TV Liberté.
Radio Côte d'Azur, notre nom, juste radio aussi, qui joue son rôle avec
qui obtient des
notre ami Philippe Honrad, là, que tu as vu il n'y a pas très longtemps, donc pareil aussi, animer des émissions, et puis ton serviteur et quelques autres aussi avaient commencé à intégrer notre vieille maison.
L'installation des bases d'un renouveau particulièrement
intéressant. Le retour aussi de Dominique Vénère.
Absolument.
Et avec ses initiatives éditoriales sur le point historique.
Sa nouvelle revue
Enquête
d'histoire.
Sur l'histoire et la nouvelle revue d'histoire. Et ses publications, et ses livres, son Histoire et traditions européennes, qui, moi à l'époque je l'ai dit, c'est l'ouvrage qu'Alain de Benoît aurait dû écrire depuis 20 ans déjà. Donc bon, qu'il avait plus ou moins esquissé de Maillastra Renaissance de l'Occident, ce recueil-là de textes qui est sorti en 78-79. Donc voilà, on a vraiment, sur le plan éditorial et publication, on a quand même...
L'émergence d'un renouveau.
Une dynamique en tout cas qui est lancée. Alors, bon, la rupture entre Faye et donc le canal historique de la Nouvelle Droite, on a parlé rapidement, c'est pas la peine, je pense, d'y revenir. Alors, comme tu le dis, il y a aussi élément qui vraiment fait peau neuve.
Oui.
Et qui, à la fois, va intégrer beaucoup de nouvelles plumes, va voir se dégager deux lignes plus ou moins qu'on peut déceler.
Oui. Alors, une ligne qui est celle de la droite buissonnière, on peut dire.
Avec François Bousquet,
avec François Bousquet, qui est fasciné par le personnage de Patrick Buisson.
Auquel il a consacré un ouvrage, d'ailleurs.
Auquel il a prêté un peu sa plume dans certaines situations, je pense. Et puis, de l'autre côté, la ligne plus populiste, qui est...
Ni droite ni gauche, dépasser ce clivage.
Voilà, donc ces deux lignes vont cohabiter et s'enrichir, ou parfois se contester mutuellement, mais c'est ce qu'on va trouver dans Éléments à partir de ces années-là.
Mais comme tu le précises, perd un petit peu de sa cohésion, idéologique.
Voilà. On a, c'est vrai que c'est...
De l'impératif de formation, quelque sorte. De formation, de pédagogie, formation. Enfin, c'est comme ça que ça m'est apparu à l'époque. Ça, plus ou moins, ça continue.
Avant, c'est
un peu le revers de la médaille, de l'ouverture.
Dans chaque numéro d'Éléments, on retrouvait toujours la vision du monde complète d'Éléments. Et chaque auteur... Dans sa thématique, la thématique qu'il traitait, la traitait sous l'angle de la vision du monde partagée.
Et même, il y avait la logique, Guillaume Fay, à l'époque, était à la tête du secrétariat des recherches, enfin, il y avait une stratégie.
Oui.
Quand on aborde, par exemple, la culture gadget dans le numéro d'Éléments, ou qu'on aborde le vide intellectuel, ou l'État, pour quoi faire, je citais des couvertures d'Éléments des années 80, qui, pour beaucoup d'entre nous, moi en particulier, pour moi, constitue en grande partie l'apogée d'Éléments. Mais quand je dis l'apogée d'Éléments, un élément qui puisse servir véritablement de formation pour de jeunes militants, de base solide d'Éléments. Et moi, j'avais l'impression que l'Élément n'était plus pensé dans cette perspective. En tout cas, beaucoup moins. Parce que là, il y a quand même une hétérogénéité aujourd'hui,
des talents qui sont mis parfois en parallèle. C'est une revue que moi, je lis toujours avec beaucoup de plaisir, mais c'est vrai qu'il y a plus forcément cette vision,
fil rouge, en fait, cette vision commune. Ce squelette, en fait, cette architecture. Concernant l'élément, en tout cas, il y a un événement quand même qui va profondément marquer aussi cette période. Là, on est dans la deuxième décennie des années 2000, donc en 2013, c'est la mort sacrificielle
Dominique Vénère.
Et là, cette mort volontaire spectaculaire, au bon sens du terme, va avoir des conséquences aussi sur l'apparition d'une structure qui, en grande partie, pourra être considérée comme une certaine postérité du Grèce, en tout cas de la Nouvelle Droite.
Alors oui, on peut dire du Grèce. Donc ce sacrifice, il intervient au moment de l'apogée de la manif pour tous, où il y a beaucoup de jeunes dans les rues, énormément de jeunes et énormément de militants identitaires qui ont pris la main un petit peu sur le mouvement, il faut bien le dire. Elle va avoir un impact pas aussi fort, pas sur la population française, on ne peut pas le dire, mais en revanche sur la mouvance identitaire dans son ensemble, aura un très fort impact, y compris au niveau européen, parce que ça un choc jusqu'au niveau en Italie, en Allemagne, etc. Et ce choc va permettre de bâtir donc l'Institut Iliade, dont la création est annoncée l'année suivante, à l'anniversaire de la mort de Dominique Vénère. Et Institut Iliade qui va se consacrer à la formation et qui va organiser chaque année un colloque qui va être un lieu de rencontre pour toute la mouvance identitaire. Et un lieu de rencontre, on va dire des choses intelligentes. Et ça va avoir, on va former une nouvelle génération de cadres du combat identitaire pour l'Europe, européen.
Voilà, rappelons cet institut, il y a cet institut pour la longue mémoire européenne. Et il est surtout fondé par des vieux de la vieille, en quelque sorte, et de la vieille maison.
Quasi majorité de gens qui sont tous été formés par le GRAS.
Voilà, de Jean-Yves Le Gallou. Bon, après, on a aussi Bernard Lugan, mais qui est proche de nous, de cette manière. Fabrice Le Sade et quelques autres qui reprennent du service, en quelque sorte, et qui vont presque améliorer la formule, l'ancienne formule du GRAS, pour ceux qui, comme nous, ont eu un aperçu.
Ils vont tirer des enseignements des erreurs qui ont pu être commises. Et puis, la différence également, c'est que c'est une... le GRAS, c'est une monogénérationnelle. C'était constitué de pour l'essentiel, de gens qui appartenaient à la même génération. Alors que là,
nous sommes un peu des exceptions. Hein. Oui. Donc, toi, tu es né en 71.
Non, mais je veux dire, les créateurs.
Les
créateurs, ils avaient tous le même âge. Ouais. Donc, tandis que là, les créateurs de l'Institut Iliade, c'est un groupe générationnel qui est assez étendu. Donc, ce qui permettra une transmission plus aisée, une évolution plus naturelle. Que quand c'est un groupe d'âge qui évolue simultanément et qui ne permet pas forcément à des jeunes de prendre leur place.
Tu le précises à plusieurs reprises, beaucoup de jeunes femmes.
Oui, voilà. C'est un grand changement par rapport aux anciens colloques
du GRAS. Mais voilà, les colloques du GRAS, on avait parfois les petites amies et les épouses, mais voilà, ça n'est pas vraiment de là.
Comme le dit un de nos camarades, c'est une preuve de succès quand il y a.
Exactement. Et puis avec l'organisation d'un colloque annuel et puis des publications régulières.
Voilà, des publications régulières, avec une maison d'édition parallèle à celle de la Nouvelle Librairie. Qui publie énormément de choses, qui publie des traductions. On parlait ensemble du livre de Bénédicte Kaiser qui vient de sortir, qui est remarquable.
J'ai terminé la lecture un peu avant cette émission, sur l'hégémonie. Ouais. Et d'ailleurs, qui nous parle vraiment de la figure de Gramsci,
de ce qu'on peut en tirer, d'une lecture méthodique de Gramsci, etc.
Et puis du paysage aussi métapolitique allemand et des racines de la nouvelle droite allemande, avec une figure aussi qui a marqué. Grâce à Robert Stoker, on avait aussi eu vent de cette figure qui a marqué la nouvelle droite allemande, Eichberg, qui déjà participait au camp école de la fin finissante et de la fin des années 60. Donc, il y a vraiment dans les diverses collections, les auditeurs fidèles savent que j'en fais régulièrement écho dès que l'occasion se présente. Alors, pour toi, qu'est-ce qui pourrait différencier le GRAS, canal historique, de l'Institut Iliade aujourd'hui.
L'Institut Iliade est peut-être moins marqué par l'anti-christianisme. Voilà. Oui. Le GRAS a été très fortement anti-chrétien et il est resté, même s'il a dépassé une vision du monde plus païenne.
Ça s'est manifesté, s'est formulé de manière plus nuancée.
Au départ, c'était assez agressif quand même, parce que la situation était très différente. Et que,
c'était des débats qu'on pouvait, à la limite, se permettre.
Voilà. Pour l'Institut Iliade, ils sont assez... ils ont une vision, un souci du sacré... mais qui est assez ouvert. Et ils ne veulent pas nier les 15 siècles d'histoire d'Europe qui ont été marqués par le christianisme, enfin par le catholicisme. On ne peut pas nier qu'il y a eu 15 siècles d'histoire de notre Europe que nous aimons, qui a été chrétienne. Donc ça, c'est une première différence. Peut-être sur le plan du économique, plus mesuré, peut-être, enfin, sont moins allants sur une critique, la critique du libéralisme, enfin plus partagé, disons. Enfin, disons qu'ils donnent la parole dans leur colloque à des gens qui sont parfois libéraux, même si eux ne le sont pas. Mmh. Voilà, donc ça c'est une distinction. Pour le reste, pour ce qui est de la vision de l'Europe, une certaine hostilité à l'Amérique... je dirais qu'on est sur les mêmes lignes. Hein. L'intérêt pour les traditions européennes, l'intérêt pour les Indo-Européens. Je dirais que c'est un héritier, un neveu. L'Institut Iliade, c'est un neveu du Grèce. Voilà.
Oui. Alors, il y a la mouvance aujourd'hui qu'on peut qualifier de nouvelle droite, donc à travers ces manifestations actuelles, dont en grande partie, bien sûr, l'Institut Iliade, mais n'échappe pas aussi au soubresaut de la géopolitique mondiale. Et actuellement, et je suis en partie bien placé pour en parler, bon, il y a une question extrêmement clivante qui traverse en grande partie notre mouvance d'origine, c'est bien sûr le conflit russo-ukrainien et les lectures qui convient d'y porter et les positionnements qu'il devrait en tout cas engendrer. Et tu en parles un petit peu.
Oui, j'en parle un petit peu parce que effectivement, c'est la question du conflit russo-ukrainien est vraiment très clivante. Et elle a été abordée peut-être de façon assez différente par les différents groupes qui appartiennent à la mouvance de la nouvelle droite. Élément est quand même plutôt sur une position, en partant de sa position anti-occidentale, part du principe que c'est l'Occident qui se bat contre la Russie en Ukraine, donc
guerre de proxy,
ma foi, il faut être plutôt favorable à la Russie, même si c'est triste pour les Ukrainiens. Je résume grossièrement.
Oui.
L'Institut
Iliade. Voilà, on a pu le voir à travers notamment des éditoriaux d'Alain Benoît.
D'articles de Douglin et puis d'articles
d'un certain nombre de personnes. Et puis des entretiens, des Jacques Beau ou autres.
Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas eu de débat organisé sur le sujet. Ça, à mon avis, c'est une grosse erreur.
Et je suis le premier aussi à le regretter de
cette manière. C'est une erreur à laquelle il faudrait remédier. J'espère surtout que le conflit s'arrêtera avant qu'on.
Non, la question, je donne mon point de vue que beaucoup d'auditeurs connaissent, c'est que de ne pas convenir que peut-être la grille de lecture uniquement géopolitique était sûrement réductrice, voire parfois révélatrice d'un biais erroné, et que la dimension identitaire, historique et mémorielle n'a jamais été abordée alors que c'est dans notre ADN.
Oui, bien sûr.
Et surtout par le fait que les travaux aujourd'hui sérieux, les travaux historiques existent et nous donnent des éléments qui devraient, à mon sens, donc nous guider dans cette direction. Voilà, qu'il y a une dimension identitaire et qu'il y a un peuple européen qui est attaqué au nom d'une vision erronée de l'histoire, au nom d'un impérialisme qui dit de plus en plus son nom. Enfin, voilà. Oui, comme tu l'as dit à la base, le débat n'a pas vraiment eu lieu.
Puis moi, je reste très attaché à l'idée de troisième voie qui a été développée
dans les
années 80.
Oui, mais moi aussi, j'essaie de la remettre au goût du jour.
C'était ni Moscou ni Washington.
Bon, et là, on a l'impression que l'idée de troisième voie, elle est passée à la trappe. Et même au sein de l'Institut Iliade, c'est très ambigu.
Oui, l'Institut Iliade, ils sont un peu plus...
Il y a des figures, effectivement, qui tiennent à peu près des positions similaires aux miennes, mais qui ne sont pas prépondérantes. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiguïté. Puis on voit toujours, c'est un conflit entre peuples européens. Et puis on ne va pas chercher plus loin qui est vraiment, quand même, le principal responsable de cette montée aux extrêmes et de ce conflit aujourd'hui qui déchire l'Europe. En tout cas, tu le signales très honnêtement. Ouais. Et tu as aussi l'amitié aussi de me citer, en tout cas de citer le positionnement que j'essaie de défendre déjà depuis une vingtaine d'années, c'est pas nouveau. En tout cas, ton travail reflète aussi la profonde honnêteté de ton propos, et surtout, effectivement, tu n'as pas craint d'aborder cette question qui reste encore clivante et qui ne fait pas oublier quand même l'essentiel de notre combat.
On ne peut pas réduire les positions de la nouvelle droite
si effectivement on est dans un contexte où les positions peuvent être polarisées, pour ceux qui le vivent, c'est mon cas, on essaie de pas oublier ce qui nous rassemble avant tout. Ouais. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon positionnement. J'essaie de m'y tenir. tenir. Bon, ce serait plus agréable, bien sûr, si d'autres le faisaient. Mais bon, en tout cas, à la fin de ton ouvrage, donc, tu abordes un petit peu les perspectives qui sont. Donc, comment tu pourrais tracer aujourd'hui, nous sommes en 2026, effectivement, nous vivons des années à la fois décisives et des années troublées, en quelque sorte, des années de crise, hein, au sens strict du terme. Donc, tu es, dans ta conclusion, tu essaies un petit peu de faire un point de focalisation, un petit peu, un point de réflexion sur comment tu...
C'est compliqué.
Tu précises en tout cas que concernant pour la détermination d'une position cohérente, c'est bon, l'Institut Iliade qui est le plus prometteur.
Oui, mais voilà, pour moi, c'est évidemment le lieu où doit se faire ce travail de mise en cohérence des idées de notre vision du monde. Voilà. Il faut renouer avec cette idée de vision du monde. La Weltanschauung, qui me paraît vraiment essentielle. Si on se noie dans des débats secondaires, on ne tombera jamais d'accord. Il faut renouer avec les principes.
Une vision positive, d'affirmative, en fait. Voilà.
La vision de l'Empire, une vision illibérale d'organisation de la société. Il faut renouer avec ce bloc de cohérence. Si on ne l'a pas, ma foi, ça sera un émiettement progressif de la mouvance vers des directions qui deviendront très rapidement opposées. Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment besoin de redonner de la cohésion, et l'endroit qui peut redonner de la cohésion, parce que c'est l'organisme qui va faire de la formation, qui fait un travail de métapolitique des trois fonctions, je dirais. Ouais. Au niveau de la première fonction, son travail avec la création de sa revue d'idées, et au niveau de la deuxième fonction, avec sa formation de jeune cadre pour le combat identitaire européen, et au niveau de la troisième fonction, avec son nid de formation d'entreprise. Il ne faut pas oublier les moyens économiques de notre combat. Voilà, donc pour moi, c'est le lieu où se sont synthétisées très intelligemment les idées du GRES.
Et puis on voit, pour terminer, oui, là, il nous reste encore quelques minutes, mais aussi la dimension européenne, voire internationale, qui se développe.
Et ça fait plaisir. On voit au dernier colloque, avant le dernier colloque, il y a eu lieu une session de formation qui était destinée aux jeunes OA, des jeunes cadres du combat européen. Donc il y avait une vingtaine de nationalités différentes qui étaient représentées, des Allemands, des Italiens.
Ouais, et des structures des et des maisons d'édition.
Voilà, des structures, des maisons d'édition. On a un travail de traduction inter-européen qui devient remarquable. Enfin, on peut lire, en plus, si maintenant on parle anglais, si on lit l'anglais à peu près correctement, on a encore plus de choses à disposition. Donc,
on peut citer les éditions Arctos, qui ont fait d'énormes travail. Moi, je les suis depuis plusieurs années. Ils m'envoyaient jusqu'à très récemment régulièrement beaucoup de leurs ouvrages. Là, bon, ils ont fait un gros travail de traduction d'anglais, des ouvrages d'Alain Benoît, de Guillaume Fay, de Julius Evola, de Giorgio Locchi, de Dominique Venner maintenant. Donc, c'est remarquable,
ça n'existait pas, c'est vrai, il y a 40 ans, il n'y avait pas autant de traductions, pas autant d'échanges. Donc on évolue dans le bon sens, mais c'est une course contre la montre, je dirais.
Mais on est complètement dans le contre droit, et c'est vrai qu'on a les échéances électorales dans un an. Bon, là aussi, quel rôle pourront jouer aussi nos jeunes pousses, dans quel cadre politicien ou politiciens pourront-ils s'inscrire dans le cadre du Rassemblement national ou autre. Bon, il y a eu aussi l'illusion, ce que j'appelle l'illusion de Zemmour, Reconquête, qui a été un petit peu un flop, faut le dire, dans lesquels sont retombés certains de nos amis, qui sont revenus un petit peu à leurs premières amours métapolitiques. Je pense à notre ami Jean-Yves et puis sa garde rapprochée. Donc c'est vrai que, en tout cas, la formation existe, la transmission se fait, avec tout un tissu communautaire qui se recrée. Il n'y a qu'à voir aussi toutes ces initiatives qui naissent en France.
En région,
tous ces petits groupes qui émergent
régions,
comme ça.
Des tas de petits groupes extrêmement intéressants. Moi, je pense à des gens comme Raphaël Emma ou Jean-Eudes Gana, même si par certains aspects, ils sont ils ne partagent pas toutes les idées de la nouvelle droite.
Non, mais, il peut y avoir encore
Il y a beaucoup de choses qui...
Il peut y avoir des tentations occidentalistes. Oui, voilà. Bon, ben parce que c'est vrai qu'il y a une formation encore profonde qui manque, en tout cas, ou des repères et des références qu'ils ne maîtrisent pas auxquels ils ne veulent pas accéder. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, bon, comme disait Mao, que mille fleurs fleurissent. Et c'est ce qui fait peur, d'ailleurs, bon, bien sûr, à une gauche radicalisée, un système qui a été trop longtemps habitué à être hégémonique dans tous les secteurs de la société. En tout cas, bon, ton ouvrage, vraiment, a le mérite de mettre en évidence cette aventure humaine, en fait. À la fois, cette aventure humaine et intellectuelle extraordinaire à laquelle, à nos échelles respectives, nous avons pu modestement prendre part et nous continuons à prendre part. Et en tout cas, voilà, il faut transmettre cette mémoire et en tirer des leçons. Et toi-même, dans ton livre, bon, tu donnes des éléments pour que nous puissions tirer des leçons positives, bon, des moments de gloire ou des moments, bon, au contraire, de crise et des erreurs aussi à ne pas renouveler. Et surtout, c'est notre mémoire, voilà. C'est notre mémoire personnelle, c'est notre mémoire communautaire. Donc, une fois de plus, j'encourage vivement tous nos auditeurs, jeunes et moins jeunes, à se procurer ton ouvrage, François, dont je rappelle les références. « La nouvelle droite, un panorama historique et métapolitique » coédité par l'Institut Iliade et l'édition de la Nouvelle Librairie pour la modique somme de 25 €, pratiquement 24,90 €. Donc vous pouvez procurer dans les quelques rares bonnes librairies qui demeurent en région parisienne, sinon bien sûr par correspondance, c'est le site
sur
de
l'Institut, le site de la Nouvelle Librairie.
Ou même la Nouvelle Librairie ou l'Institut Iliade. Voilà. Tu as des idées d'écriture encore
qui Non, pas pour le moment. En fait, on m'avait demandé d'écrire ce livre, donc...
Mission remplie, en tout cas. Mission remplie. Mon commandant, je ne sais pas si je dois dire mon commandant, mais en tout cas, non, vraiment, c'est un ouvrage qui était presque inattendu, de cette manière, et auquel, voilà, je renvoie nos auditeurs. Donc, c'était Pascal Lassalle aujourd'hui à la direction de ce Libre Journal, qui remercie François d'avoir été présent. Et
merci.
Tu seras toujours bienvenu.
Merci aux auditeurs.
Dès que l'occasion se présentera, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures métapolitiques. Au revoir.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Pascal Lassalle, émission préenregistrée le 20 mai 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 5 septembre. De midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.